Hello les amis, bienvenue sur mon podcast où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux bienvenus, je m'appelle Osnel et je suis là tous les lundis et les vendredis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors, j'ai disparu. j'ai disparu pendant un petit moment. J'avais besoin, en fait, de ce moment-là pour me reposer, surtout reprendre des forces. J'en avais beaucoup besoin, en fait. Enfin, j'étais pas du tout bien. Enfin, il y avait aussi au niveau de ma santé où j'allais pas vraiment bien. Et je me suis dit bon, autant me reposer et revenir avec un mental beaucoup plus fort. Du coup, parce que quand ça va pas physiquement, tu le ressens mentalement aussi. Et quand ça va pas mentalement, bah t'es pas apte en fait à tourner des vidéos, à enregistrer des podcasts, à faire des montages, etc. Donc je me suis dit bon, je prends mon temps et ensuite je reviens tout doucement. Voilà pourquoi je ne reviens que maintenant, hein. Je reviens en douceur, comme on dirait, du coup. Et je reviens avec une histoire, une sacrée histoire. Mais avant de commencer, je tiens à vous souhaiter une très bonne année, hein. Bonne santé, prospérité, longévité, enfin tout ce que votre cœur désire. Hein, voilà, donc ça c'est fait. Du coup, je pense que ça fait partie des trucs à faire, en gros, en société, chaque début d'année. Donc c'est fait, bonne année les amis. Enfin, on verra si elle sera bonne ou pas. Mais en tout cas, bonne année, hein. Et on attend de voir ce que cette année nous apportera. Alors, sans plus tarder, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. On va commencer l'année, hein, on va baptiser l'année en commençant à parler d'un tueur en série, hein, ces monstres qui, pour moi, sont la définition, franchement, de quand tu tapes tueur en série, en fait, ce qui devrait s'afficher, ça devrait être erreur de la nature, tout simplement, au sens propre, hein. Bref, nous allons parler du Taco Bell Strangler, aka Henry Louis Wallace. Alors, qui est cette personne? Henry Louis Wallace est né le 4 novembre 1965 à Barnwell en Caroline du Sud et il est le fils de Lottie Mae Wallace. Alors, on n'a aucune information en fait sur son père. J'ai cherché et en fait, il n'y en a aucune. On sait que sa mère était une mère célibataire et apparemment le père aurait abandonné la mère quand elle était enceinte. Donc, aucune information et il porte le nom de sa mère. Alors, la mère de Wallace, pour subvenir du coup à ses besoins et aux besoins de Wallace, elle travaillait en fait dans l'industrie du textile, du textile. Et en fait, pour gagner une somme potable, qui lui suffirait, en fait, à elle et son fils, en fait, il fallait qu'elle travaille de très très longues heures. Et en fait, c'est mon interprétation, hein, enfin, c'est ce que moi j'ai vu de la situation en tout cas. Je pense que le fait de travailler de longues heures avec la fatigue et tout ça, ça a conduit au fait que elle était de plus en plus irritée en fait par la simple existence de son fils, parce que en fait elle travaillait autant pour lui offrir un toit, enfin etc. Donc je pense que c'est ça qui a conduit au fait que elle était tout simplement irritée par sa simple existence en fait, tout simplement. Donc ça va donner naissance à tout ce qui va être harcèlement moral envers son fils, violence verbale, critique tout le temps, enfin ça va être ça jusqu'à ce que son fils quitte le domicile familial, quoi. Enfin, c'était tout le temps. Le truc, c'est que la situation à la maison ne va pas vraiment avoir des conséquences sur les résultats scolaires de Henry, parce qu'il travaillait bien à l'école et il pratiquait aussi une activité extrascolaire qui était le cheerleading. Et en 1983, il va obtenir son bac. Et après avoir obtenu son bac, il ne voulait plus, en fait, dépendre de sa mère. Donc, il s'est dit, bon, en fait, je vais chercher un boulot à temps partiel pour pouvoir financer mes études universitaires. Donc, il a postulé, en fait, pour un poste de DJ à la radio de la ville où il réside, Noël, enfin, sa ville de naissance. Et il a obtenu le poste et il entame, du coup, sa vie d'adulte assez brillamment. Le problème, c'est que à l'université, ça ne va pas se passer comme prévu parce que, en 2 ans, je dirais, il va passer, il va beaucoup changer de voie. Il va passer de, je prends un exemple, hein, il va passer d'études de mathématiques à études de sciences sociales. Enfin, il n'arrivait pas à trouver sa voie. Ce qui va faire que en 1985, il va se dire en fait, je perds mon temps là, je perds mon temps tout simplement. Et il va se dire bon, je n'arrive pas à trouver ma voie à l'université, bon, je vais voir si j'y arrive en fait dans l'armée. Donc, il va tout simplement s'engager dans l'armée en 1985. Peu de temps après qu'il se soit engagé dans l'armée, il va renouer avec un amour de jeunesse, Marita Brabham, et ils vont se marier vraiment peu de temps après qu'il se soit engagé dans l'armée. Et il est important de noter que avant que les deux ne se retrouvent, Marita avait déjà eu un enfant avec un autre monsieur, une petite fille qui s'appelait Théondra. Et après leur mariage, Henry va accepter Théondra comme sa propre fille, au point où il ira jusqu'à adopter Théondra. Après ça, le couple va beaucoup bouger. Ils vont bouger à cause du métier en fait de militaire de Henry qui travaillait dans la Navy tout simplement. Alors, d'après mes recherches, certains documents disent que en fait, il aurait été honorablement libéré de ses obligations de militaire en 1988, sauf que d'autres documents disent que cela s'est plutôt passé en 1992. Et personnellement, je pense que ça s'est passé en 1992 à cause de tout ce que j'ai vu, en fait, comme information sur d'autres sites, etc. Enfin, ça s'est passé en 1992. Donc, prenons le cas où il a été libéré de ses obligations de militaire en 1992. Dans ce cas-là, il aurait eu une carrière de militaire de la Navy de 8 ans, ok? Donc pendant son service, Henry, qui était marié, du coup, va commencer à avoir envie d'avoir un enfant biologique avec sa femme Marita. Le problème, c'est que Marita va refuser catégoriquement qu'elle ne voulait plus repasser par une grossesse, etc., etc. Et cela va avoir des conséquences vraiment dramatiques sur leur couple. Et la situation va aller de pire en pire jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucun contact sexuel entre eux. Et le truc, c'est que Henry va blâmer cette situation sur le fait que sa femme avait été violée quand elle était plus jeune. Et pour essayer de sauver son mariage, il va demander à Marita de venir avec lui en thérapie de couple, ce qu'elle va accepter. Donc ils vont y aller, enfin, ils vont faire plusieurs séances, etc. Mais en fait, ça n'aura aucun effet, tout simplement. Rien du tout. Alors, pour la suite de notre histoire, nous allons revenir à peu de temps après son mariage, c'est-à-dire mi-année 80. Ok? Après son mariage, très peu de temps après son mariage, Henry s'est mis à se droguer. Faut savoir que à l'époque, il était très jeune militaire, nouveau militaire, hein, et il était nouveau marié. Donc il s'est mis à se droguer avec du crack et de la cocaïne. Et forcément, en fait, son salaire, il l'utilisait pour payer le loyer, faire les courses, payer les charges, etc. Donc, il n'avait pas assez de sous restants, en fait, pour se fournir en cocaïne et crack pour le reste du mois. Donc, pour avoir, en fait, assez d'argent pour se fournir en cocaïne et crack pour le reste du mois, il s'est mis à commettre des cambriolages dans des maisons, dans des boutiques, etc. Et en fait, il volait des objets qu'il allait revendre chez des prêteurs à gages, enfin, prêteurs sur gages ou prêteurs à gages, etc. Je sais pas trop comment ça se dit, mais je pense que vous avez capté ce que je veux dire. Enfin, ce que je veux dire, ce que je veux dire. Oh my god, je vais y arriver. L'anglais, c'est beaucoup plus simple. Donc, il commettait ses cambriolages, et un jour en 1988, il a été arrêté, en fait, pour avoir cambriolé une quincaillerie, et il sera condamné à 2 ans de prison avec sursis. Après ça, en 1991, il va cambrioler un lycée et ensuite, vous vous souvenez de la radio où il a été DJ, il va se rendre dans cette radio et il va commettre un cambriolage du coup. Et ensuite, il va essayer de revendre ce qu'il a volé dans la radio et au lycée. Et pendant qu'il essayait en fait de vendre les matériels volés, il s'est fait tout simplement arrêter. Et en attendant son procès du coup pour cette nouvelle affaire, il sera de nouveau arrêté pour cambriolage début 1992. Et c'est à ce moment-là en fait que l'armée, seulement à ce moment-là, au bout de je sais pas combien d'arrestations, passage devant la justice, c'est à ce moment-là que l'armée en fait, qui ne voulait plus être embarrassé parce que, enfin, c'est embarrassing. Yeah, très embarrassant. Donc, ils se sont dit, bon, on va se libérer. Voilà. C'est à ce moment-là qu'ils vont le libérer, en fait, de ses obligations de militaire avec honneur, tout simplement. Le truc qui me dérange, c'est que c'est quelqu'un qui a commis des crimes, en fait. Pourquoi vous lui permettez d'avoir sa retraite de militaire? Faut le virer. Je suis désolée, il a commis des crimes, faut le virer. Enfin, like, common sense, like... Anyway. Anyways, bref. Donc, peu de temps après avoir été renvoyé de l'armée, pour moi, c'est ils lui ont dit bye, quoi, enfin, mais voilà, c'était dans un commun accord. Marita va le quitter et il va réemménager avec sa mère et sa sœur. Après avoir emménagé avec sa mère et sa sœur, il va se mettre à fréquenter beaucoup de jeunes filles. Et l'une de ces jeunes filles va tomber enceinte et donnera naissance au tout premier enfant de Henry, une petite fille qui est née en septembre 1993. Alors, pour la suite de notre histoire, on va refaire un tour quelques années en arrière pour que je vous raconte le troisième visage de Henry. Alors, il avait un premier visage qui est, voilà, le jeune homme parfait, soldat, etc. Second visage de criminel, tout simplement cambrioleur, voleur, etc. Et oui, il a un troisième visage. Il a un troisième visage de criminel version XXL. En gros, le gars, il menait pas qu'une double vie, il menait une triple vie. Insane, les guys. Totalement insane. Alors, on repart quelques années en arrière et on atterrit le 8 mars 1990. À ce moment-là, il était déjà marié depuis quelques années. Hein. Il s'est marié mi-année 80, vous vous rappelez. Donc, pendant qu'il était marié à Marita et qu'il était militaire avec un casier du judiciaire de cambrioleur, il avait déjà été condamné en 1988. Voilà, vous vous souvenez. Henry, le 8 mars 1990, a assassiné une jeune lycéenne de sa ville de naissance. La jeune fille avait 18 ans et elle était nommée Tashonda Betea. Après le meurtre, il a jeté son cadavre dans un lac et le cadavre sera retrouvé flottant en fait dans le lac en avril de la même année. Et l'enquête sur le décès de Tashonda ne va rien donner en fait, ils n'ont réussi à rien trouver tout simplement. Et vous savez la meilleure est que pendant l'enquête, ils ont interrogé Henry en tant que témoin. Like, oh my god, c'est wow. Bref. Continuons. Peu de temps après le meurtre de Tashonda, il sera à nouveau interrogé dans la tentative de viol d'une jeune fille de 16 ans, toujours de sa ville natale. Et encore une fois, il va passer entre les mailles du filet. C'est un caméléon, le gars. Enfin, je sais pas comment. C'est un chat. Il est liquide. Il passe. Allez, hop. Enfin, c'est dingue. On continue. En mai 1992, pendant que son mariage arrivait déjà à sa fin et que l'armée le lâchait, il a fait la rencontre de Sharon Nance. C'était une petite dealeuse. Enfin, c'était pas une grande dealeuse, quoi. C'était une toute petite micro-dealeuse et qui était aussi prostituée. Enfin, voilà. Et après avoir fait leur truc ensemble, ils ont eu un rendez-vous ensemble, ok? Et à la fin du rendez-vous, elle lui a réclamé l'argent en mode logique. Enfin, t'as eu ton truc, maintenant paye-moi. Sauf qu'au lieu de la payer, il va la battre à mort et va déposer son cadavre près de la voie ferrée du coin. Et le cadavre sera découvert quelques jours plus tard. Continuons. Le 14 juin 1992, Henry va violer et étrangler à mort Caroline Love, 20 ans. Alors, Caroline, c'était la colocataire de la petite amie de Henry. Après le meurtre de Caroline, il va jeter son cadavre dans les bois, en fait, et son cadavre sera retrouvé 2 ans plus tard, après l'arrestation de Henry. Et vous savez la meilleure? Ah oui, enfin, à chaque fois, il y a quelque chose. C'est une dinguerie. La meilleure est que il a aidé sa copine à faire la déclaration de la disparition de Caroline auprès de la police. Non, le gars, il est culotté. Je vous jure, mais quand je travaillais sur l'histoire, j'étais en mode, Et il est culotté. Bref, continuons. En 1993, il a trouvé un boulot en tant que pseudo-manager de Taco Bell. Enfin, d'un Taco Bell, pardon. Et enfin, si, pour ceux qui ne savent pas, un Taco Bell, c'est un fast-food, comme un McDo, en quelque sorte. Et à son travail, il a fait la rencontre d'une employée de son équipe, Shauna Hawk, qui avait 20 ans. Et elle était étudiante, donc elle travaillait à temps partiel, tout simplement. Et le 19 février 1993, Henry va aller chez Shauna pour avoir des rapports sexuels. Apparemment, elle était consentante, apparemment. Et après avoir fini, du coup, il va l'étrangler. Il va l'étrangler vraiment à mort, l'abandonner dans sa baignoire et repartir. Et le cadavre de la jeune fille sera découvert quelques jours plus tard par ses proches. Et il aura le culot, oui, à chaque fois il a le culot de faire quelque chose, il a eu le culot de se rendre aux funérailles de la nana. Sans commentaire, les amis. J'ai abandonné. Non. Continue. Le 22 juin 1993, il va violer et étrangler une autre de ses collègues, Audrey Spain, 24 ans, et le cadavre de la jeune femme sera découvert 2 jours plus tard. Le 10 août 1993, il va violer et étrangler une autre étudiante de 21 ans, Valencia Jumper, et il ira du coup jusqu'à mettre feu à l'appartement de la jeune femme pour essayer de faire croire en fait qu'elle était décédée accidentellement. Enfin, bref. Le 14 septembre 1993, il va violer et étrangler à mort une jeune femme de 20 ans nommée Michelle Stinson. Et elle était également étudiante. Et la particularité de celle-ci, c'est qu'elle était une amie de Henry. Il a tué sa pote après l'avoir violée. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il a assassiné la jeune femme devant l'un des deux fils de la jeune femme. I don't know what to say. Le 20 février 1994, il va violer et étrangler Vanessa Mack. Elle avait 25 ans. Elle était la sœur de l'une des collègues de Henry. Et apparemment, il racontait à tout le monde qu'il avait une petite amie. Hein. Je vous rappelle qu'il a tué des collègues de sa petite amie. Mais il racontait quand même partout qu'il était amoureux de Vanessa Mack, qui était la sœur de sa collègue. Et franchement, je n'arrive pas à comprendre en fait comment tu peux être amoureux de quelqu'un et tuer cette personne en fait, et que cette personne fasse partie de tes victimes. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Enfin, non. Alors, il est important de savoir que Vanessa était mère de deux enfants, un de 7 ans et un autre de 4 mois. Continuons. Le 8 mars 1994, dans la journée, Henry va violer et étrangler Betty Jean Bocon, qui est une nouvelle collègue de sa copine, encore une collègue de sa copine. Et le soir, il va retourner dans la résidence, en fait, de la jeune femme, de Betty, du coup, pour violer et étrangler à mort une voisine de Betty qui s'appelait Brandy June Anderson. Parce que, en fait, il avait stalké Betty, en fait, avant de tuer Betty, il avait stalké Betty pendant un moment. Et pendant qu'il stalkait Betty, il a pu voir, en fait, les habitudes de cette voisine, de Brandy June Anderson. Et il savait que le soir, le mari de celle-ci se rendait au travail plutôt le soir, donc il savait que elle allait être seule le soir avec son bébé. Et en fait, au moment où il était en train de l'étrangler à mort, elle portait son bébé dans les bras et il va la tuer. Et ensuite, il va étrangler le bébé et en fait, l'enfant, je pense que l'enfant a perdu connaissance et il a cru que le bébé était décédé, sauf que le gosse a repris connaissance plus tard, donc l'enfant n'est pas décédé. Par la suite, le 12 mars 1994, il va violer et poignarder 38 fois Debra Ann Slaughter. Elle avait 35 ans et elle était également une collègue de sa petite amie. Par contre, ce crime sera en fait le dernier crime qu'il commettra parce qu'il va se faire arrêter le 13 mars 1994. Il se fera arrêter pendant qu'il essayait de se cacher en fait dans la salle de bain de l'un de ses amis. Mais bon, voilà, les flics ont réussi quand même à l'avoir. Donc après son arrestation, les flics vont lui faire comprendre en fait qu'il n'avait pas d'autre choix en mode parle parce que parle. Et au début, les flics pensaient que il n'avait pas commis beaucoup de crimes. Pour eux, il allait donner 2-3 noms. Là, quand il s'est mis à écrire et que la liste est passée de 5 à 6 à 7 à 8 à 9 à 10 à 11, les flics, ils étaient en mode What the shit? Ils étaient pas prêts. Donc après ça, il a été inculpé naturellement de 11 meurtres au premier degré et il sera incarcéré en attendant son procès qui aura lieu du coup en septembre 1996. Alors, le procès débute, le procureur arrive avec son dossier bien fourni, enfin, il était là, il était confiant et la défense arrive. Et en fait, la défense, je rigole parce que je sais déjà ce que je vais vous dire. Enfin, quand j'ai lu ce que la défense a dit, j'étais en mode, c'est du foutage de gueule, c'est vrai. Quand je vais vous dire ce que la défense avait comme argument, franchement, si c'était votre avocat, mais moi, si c'était mon avocat, je le paye pas. Je paye pas, ça c'est sûr. Donc, en premier lieu, la défense va nous sortir en fait que les meurtres ne sont pas des meurtres au premier degré, c'est-à-dire prémédité, parce que Henry aurait des problèmes psychologiques. Alors, quels problèmes psychologiques? On ne sait pas. Il aurait des problèmes psychologiques. Donc, ce ne sont pas des meurtres au premier degré. Ok. Ensuite, ils vont nous sortir que il a peut-être tué 11 personnes, mais ce n'est pas un tueur en série. Vous savez pourquoi? Parce que quand les flics, au début de l'enquête, ils essayaient en fait de relier 1, 2, 3 meurtres, ils ont fait appel au FBI parce qu'ils se disaient, c'est peut-être un tueur en série. Et le FBI, quand ils ont regardé en fait les meurtres, ils se sont dit, ils leur ont répondu, non, c'est pas un tueur en série, c'est des meurtres, avec des meurtriers différents. Donc, vu que le FBI a dit qu'il n'est pas un tueur en série, même s'il a tué 11 personnes dont les flics parlaient, il n'est pas un tueur en série. Parce que le FBI a dit que ce n'est pas un tueur en série. Ah non, mais je vous jure, c'est du foutage de gueule à un niveau high level. High level. Et leur troisième argument, c'était tout simplement parce que, voilà, il a subi... c'est une victime lui aussi, il a été victime de sa mère, il a subi des abus verbales, etc. Enfin, voilà, enfin... Ok, enfin, t'es pas le premier enfant à être maltraité par ses parents, en fait. C'est trop facile de dire... J'ai tué des gens parce que ma mère m'a maltraité quand j'étais plus petit. Enfin, non, faut arrêter. Enfin, c'est du foutage de gueule. Enfin, non. Donc, tout comme moi, hein, personne n'a été attendri. Aucun membre du jury, personne. Et il a été reconnu coupable de 9 meurtres au premier degré et sera condamné à 9 fois la peine de mort. Donc, ce que j'ai trouvé qui était bien qu'il a fait, c'est que à la fin du procès, il a tenu, en fait, à s'exprimer et à dire et à parler aux famille des victimes, et il a dit aux familles des victimes, je cite, « Aucune de ces femmes, aucune de vos filles, mères, sœurs ou membres de votre famille ne méritait ça. Elles ne m'ont rien fait qui justifie leur mort. » Au moins, il leur a dit quelque chose. C'est ok, c'est déjà bien. Et depuis, bah, il est dans le couloir de la mort, hein, depuis la fin du procès. Et quand on se dit que c'est fini, bah non, c'est pas fini. Parce que le 5 juin 1998, il va épouser, pendant qu'il est dans le couloir de la mort, yes, il va épouser Rebecca Torrijas. Je sais pas si je le dis bien, Torrijas. C'est une ancienne infirmière de prison. Enfin, j'ai jamais compris, en fait, les nanas qui sont hot pour des meurtriers. C'est comme la nana qui a eu un enfant avec Nordal Lelandais récemment, je n'arrive pas à comprendre. I don't get it. Mais c'est juste mon avis. Enfin, et en fait, ce mariage va lui donner des ailes. Comme on dit, l'amour donne des ailes. Ok? Et il va vouloir se battre, en fait, pour essayer de renverser sa condamnation à mort et faire passer ça pour soit de la prison à perpétuité, soit se faire déclarer non coupable. Donc, il a fait appel en 2000, en 2001 et en 2005, respectivement, auprès de la Cour suprême de la Caroline du Nord, de la Cour suprême des États-Unis et auprès de la Cour supérieure de la Caroline du Nord. Et à chaque fois, sa demande a été rejetée. Et franchement, je sais pas qui l'a conseillé, en fait, dans ses demandes, parce que, en fait, il était malhonnête dans ses appels. Il était tout simplement malhonnête. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Dans son dossier d'appel, il dit tout simplement que, en fait, il est innocent. T'es innocent, tout ce qui a été volé chez les victimes ont été retrouvés en ta possession. C'est toi qui les as vendus, les gens t'ont reconnu, enfin, il y a des preuves, enfin, là. Alors si c'est pas toi, ça veut dire que tu connais la personne qui a commis les crimes, donc, enfin, que ce soit l'un ou l'autre des cas, tu es impliqué, en fait, et il est malhonnête parce qu'il dit oui, que les aveux lui ont été estorqués, que ce sont des faux aveux, etc. Mais avec tout ça comme preuve, il aurait assumé et il aurait demandé la clémence, etc. Appuyé sur les circonstances atténuantes qui étaient, voilà, j'ai une team, etc. J'ai des problèmes psychologiques qu'on ne sait pas. Mais apparemment qu'il a. Il se serait vraiment focalisé sur ça. Je pense que les gens auraient essayé, en fait, de se dire, bon, peut-être. Mais il a été malhonnête, en fait, tout simplement du début jusqu'à la fin, en fait, dans ses demandes d'appel. Donc, ça me choque pas, en fait, qu'on lui ait refusé, en fait, ses trois appels. Et il n'a plus le droit, en fait, de faire appel. Donc, là, il attend tout simplement, en fait, qu'on lui donne une date pour son exécution. Et il est encore dans le couloir de la mort jusqu'à présent. Donc, vous le savez maintenant, si... Comme par hasard, vous avez envie de lui envoyer votre crachat par la poste, vous pouvez le faire. vous pouvez, hein, voilà. Je vous donne, c'est pas pour vous donner des idées, hein, mais voilà, vous pouvez. You can. Yes, you can. Je sais plus qui dit ça comme thème de campagne, mais voilà. Yes, you can. Donc, c'est l'histoire d'aujourd'hui. Je pense que le podcast, il est quand même un peu long. C'est une histoire dingue. Une histoire vraiment, vraiment dingue. J'espère qu'elle vous aura plu. Hein. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et faites de bons choix. Bye, guys.